Vous écoutez
RMC.
h30 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à tous, le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une première cette nuit dans l'espace. La NASA a réussi à dévier la trajectoire d'un astéroïde. Grande première pour éviter des drames à l'avenir, on va vous expliquer tout ça. La taxe foncière qui risque encore d'exploser, c'est un effet ricochet du budget qui vient d'être dévoilé par le gouvernement. Et puis la riposte de Julien Bayou qui conteste les accusations de violence morale l'ayant poussé à démissionner de ses fonctions chez les Verts.
Et il s'est passé quelque chose d'incroyable cette nuit dans le ciel.
C'est la NASA qui, pour la première fois de l'histoire, a réussi à percuter un astéroïde afin de changer sa trajectoire. Il n'y avait pas de danger particulier cette nuit, mais l'idée, Romain Houck, pour RMC, c'était bien de s'entraîner au cas où un jour, eh bien, la Terre soit menacée.
Oui, aucun risque. Pour cette fois, ça s'est passé à 11 millions de kilomètres au-dessus de notre tête. Cette mission, elle s'appelle DART, fléchette en anglais, un nom qui a tout son sens puisqu'il s'agissait, ni plus ni moins, d'envoyer un satellite heurter un astéroïde à pleine vitesse, 22 000 km/h, pour en dévier sa trajectoire. Impact confirmé cette nuit à 1h14 précise. Une collision diffusée en direct sur Internet par la NASA. Les images sont dignes d'un film de science-fiction. On y voit un immense rocher au beau milieu de l'espace devenir de plus en plus gros à mesure que le satellite approche, jusqu'à remplir l'écran avant de s'arrêter net au moment du choc. Sur Terre, à la NASA, c'est l'euphorie. Difficile de croire qu'un satellite à 330 millions d'euros vient d'être anéanti. Et pourtant, c'est bel et bien un demi-succès. Demi, puisqu'il faudra désormais plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour analyser l'orbite de l'astéroïde et voir si sa trajectoire a changé. Une répétition générale, donc, pour tenter d'éviter la catastrophe le jour où, peut-être, la science-fiction deviendra réalité.
Et pendant ce temps, sur Terre, c'est le budget qui anime les débats. Budget 2023.
C'est une autre forme d'astéroïde, en effet.
Oui, c'est autre chose. Budget qui vient d'être présenté. Pour 2023, 480 milliards d'euros sans aucune nouvelle dépense, calculée à l'euro près, voilà ce que nous dit Bercy, sans hausse d'impôts, ça c'est la promesse, mais avec une révision quand même à la hausse de la taxe foncière en fonction de l'inflation et, comme à chaque fois, à l'appréciation des communes. Expliquez-nous ce qui va se passer, Martin Caloré pour RMC.
Si vous êtes propriétaire, votre taxe foncière est calculée selon deux paramètres. Le taux décidé par la commune et une base décidée au niveau national, calculée à partir de la valeur du logement à la location. Et c'est cette base qui devrait augmenter de 5,7%. Mécaniquement, les communes vont donc récolter plus d'argent et elles en ont bien besoin. André Léniel est vice-président de l'Association des maires de France.
Les collectivités territoriales subissent l'inflation. Et si nous ne voulons pas être obligés de fermer les piscines, de baisser le chauffage dans les écoles, alors oui, nous avons besoin, nous aussi, d'être protéger de l'inflation. Si on ne met pas à jour nos bases, nous ne serons pas en capacité de boucler notre budget.
Mais Christophe Demerson, président de l'Union des propriétaires, craint que des hausses locales se surajoutent à cette hausse nationale.
L'augmentation de 5,7%, en réalité, c'est le minimum du minimum. Derrière, il va y avoir l'accumulation de petites taxes plus les augmentations de taxes qui vont être votées par les collectivités locales. On vient déjà de subir sur les 10 dernières années plus de 30% de hausse. Aujourd'hui, le principe de réalité, c'est que les gens ne peuvent plus payer.
Comme pour l'essence ou l'énergie, un bouclier tarifaire sur cette hausse n'est pas exclu par le rapporteur du budget.
C'est confirmé, le paquet de cigarettes va passer à 11 euros prochainement. La première ministre Elisabeth Borne l'avait annoncé hier matin sur RMC. Bien ça y est, on connaît le détail, 50 centimes de plus l'an prochain, 35 de plus en 2024 au nom de la lutte contre le tabagisme. Impôt déguisé, voilà ce que répondent les buralistes. Il y a du nouveau dans l'enquête ce matin à Nantes, 3 jours après le viol d'une femme de 40 ans en pleine rue. 2 réfugiés soudanais viennent d'être mis en examen et écroués, relançant un débat sur la sécurité dans cette ville. On retrouve en fait les niveau de délinquance d'avant Covid, déplore le préfet de ce département de la Loire-Atlantique. La journée très agitée à Saint-Étienne s'était annoncée avec des tensions au conseil municipal en plein affaire du chantage politique à la Sextape, affaire qui implique le maire Gaël Perdriau et qui vise un ancien adjoint. L'opposition s'en dénonnait à cœur joie hier et le maire a tenté de balayer les critiques comme nous le raconte Vincent Chevalier sur place pour RMC.
Plusieurs heures de débat, en partie monopolisé par le chantage à la sextape. Gaël Perdriau n'a pas flanché, il maintient sa position.
À ce jour, toutes les personnes citées sont présumées innocentes. Et ce n'est pas parce qu'on est accusé qu'on est coupable.
Un maire soutenu par son équipe, la majorité n'est pas intervenue sur l'affaire. Pour Nicole Pesselon, adjointe à la sécurité, l'essentiel a été assuré.
On a pu prendre les délibérations concernant les Stéphanois, les associations, les structures. Et je crois que c'est l'essentiel. Et c'est ça qu'il fallait sauvegarder.
Une position regrettée par Lionel Boucher, adjoint aux animations, seul membre de la majorité, a demandé la démission du maire.
C'est un
système, et le principe d'un système, c'est de perdurer. Je veux que celui qui en est à la tête aujourd'hui s'aperçoive que sa légitimité est contrariée.
L'opposition, elle, s'en est donnée à cœur joie.
On se construit par l'exemple. L'éducation, c'est l'exemple. C'est quoi cet exemple ?
Laetitia Valentin, conseillère communale.
Il ne peut plus représenter les valeurs que doit véhiculer un élu.
Devant l'hôtel de ville, environ 150 personnes ont manifesté pour demander également le départ du maire.
Il est 6h35 sur RMC et la riposte donc de Julien Bayou, l'écologiste accusé de violence morale sur une ex-compagne qui vient de démissionner de ses fonctions de secrétaire national et de président des Verts à l'Assemblée, alors qu'il n'y a aucune plainte, aucune enquête judiciaire non plus. Il conteste et contre-attaque même par la voix de son avocate, comme nous le raconte Hélène Terzian du service politique à RMC.
Julien Bayou estime qu'on refuse de l'entendre depuis que son ex-compagne a envoyé un courriel à son parti, cette Europe Écologie Les Verts qui s'est saisie de sa cellule interne contre les violences sexistes et sexuelles. À 4 reprises, Julien Bayou a demandé à être entendu, ce qui lui a été refusé, explique son avocate Maître Marie Dosé, qui relate aussi un message de menace de la part de l'ex-compagne de Julien Bayou.
Elle assure de sa volonté de le mettre, je cite, « hors d'état de nuire » et elle lui prédit, je cite toujours, « une chute douloureuse ». Le courriel se termine par ces mots. Ta mère te vomit d'où elle est. Je vous rappelle que la mère de Julien Bayou est décédée lorsqu'il avait 5 ans à peine.
Son avocate rappelle qu'à aucun moment n'ont été évoquées des violences sexuelles, physiques ou du harcèlement et laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'une manœuvre politique.
Julien Bayou constate avec amertume et colère l'instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques. Personne n'ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d'année. L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades.
Julien Bayou devrait s'exprimer publiquement dans les prochains jours.
Et ne manquez pas dans un peu moins d'une heure maintenant, 7h40, mon invité ce sera Hervé Temim, avocat, grand avocat du barreau, qui revient sur cette affaire Julien Bayou et qui dénonce un véritable tribunal médiatique pour une affaire dont les faits n'ont donc toujours pas été présentés à Julien Bayou, contraint de démissionner. Maître Temim, dans une heure.
Commentaire politique, c'est bien fait. Voilà ce que dit Éric Zemmour, le patron du parti Reconquête, invité de BFM TV hier soir, qui s'est réjoui de la victoire de la coalition d'extrême droite aux législatives en Italie, avec une pointe de regret quand même.
Ils ont réussi à faire, oui, ce que j'ai raté en France, mais vous savez, il ne faut pas être tout seul pour réussir une union. Il faut que les autres soient d'accord. En fait, l'Italie, vous avez vu, c'est très intéressant, cette coalition des droites, parce que ça ressemble, en fait, chaque parti italien correspond un peu à un parti français. Sauf que là-bas, les trois partis sont d'accord pour s'allier, donc ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Il faut l'union des droites pour combattre et pour vaincre dans cette situation.
Et puis le Royaume-Uni tourne la page. Elisabeth II, les premiers billets à l'effigie de Charles sont en préparation pour une mise en circulation en 2024. Soit l'effigie de la reine sera valable, mais progressivement retirée de la circulation.
Ah, les miens ne valent pas grand-chose.
Voilà,
en tout cas,
effectivement. Quand on parle du roi Charles, on parle du roi Charles III, pas Charles
II.
On a un petit peu de quinté, Quentin, non ?
Oui, c'est à Compiègne aujourd'hui. Ce sera dit en début d'après-midi, 13h50 sur RMC Découverte. Les pronostics de la Dream Team ce matin, là c'est le 3, là sans favori le Huron, le 3 en outsider, Happy Day.
C'était le journal donc de Quentin Vinet, il est 6h38 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
C'est votre avis, je vous attends au 32-16. Bientôt le paquet de cigarettes à 11 euros. Est-ce que vous dites, bah tiens, c'est pas mal, c'est peut-être le moment d'arrêter? Ou alors est-ce qu'au contraire, vous allez tenter de vous débrouiller, de trouver vos cigarettes ailleurs? Est-ce que vous trouvez ça injuste? On en débat tous ensemble. Le standard vous est ouvert.
RMC, police justice.
Mais avant cela, et comme chaque jour, une histoire repérée par le service police-justice d'RMC. Et aujourd'hui, direction la Belgique, où un gang mafieux envisageait sérieusement de kidnapper le ministre de la Justice, Guillaume Bié.
Vincent Van Kickenborn a échappé à un projet d'enlèvement. Ça s'est passé à Courtrai, tout près de la frontière française, ville dont le ministre est aussi le bourgmestre. À proximité de son domicile, dans une voiture suspecte, les policiers ont découvert un fusil d'assaut, des bouteilles remplies d'essence et du ruban adhésif. Dans les heures qui ont suivi, 4 suspects qui avaient pris la fuite ont été arrêtés aux Pays-Bas. Ce sont des Néerlandais âgés de 20 à 48 ans. Un commando d'hommes de main qui seraient les exécutants d'un projet piloté depuis l'étranger par des trafiquants de drogue. Il faut dire que le ministre belge de la Justice essaye en ce moment d'obtenir l'extradition de grands narcotrafiquants arrêtés à Dubaï et qui seraient liés à la Mocromafia, considérée par Europol en gros comme l'organisation criminelle la plus dangereuse d'Europe, la principale importatrice de cocaïne. Or, ces dernières semaines, les incidents se multiplient au port d'Anvers, le premier point d'entrée de la cocaïne sur notre continent. Le trafic y est en hausse, les règlements de compte aussi, ce qui conforte le ministre de la Justice dans son action. Nous continuerons de combattre le crime organisé, c'est ce qu'il a déclaré. Lui qui vit désormais sous surveillance renforcée, il a même été placé dans une résidence sécurisée.
Guillaume Biet, chef du service police-justice d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h42, très bon réveil à tous.
C'est votre avis.
C'est votre avis, je vous attends au 32-16 pour ce débat. Un Français sur trois, quasiment un Français sur trois, est aujourd'hui fumeur. Et donc cette annonce hier de la Première Ministre Elisabeth Borne vous concerne. Écoutez.
Le prix du paquet, il va augmenter comme l'inflation. Ça serait assez paradoxal, vous voyez, que la hausse des cigarettes soit moins élevée que l'inflation. Ça veut dire que finalement, relativement, le prix baisserait. Compte tenu de l'impact sur la santé du tabac, je pense que ça serait peu compréhensible. Et donc, on a prévu, en effet, d'indexer le prix du paquet de cigarettes sur l'inflation.
Elisabeth Borne, d'ailleurs, elle-même, grosse fumeuse. Alors, pas de cigarettes, mais de vapote. Enfin, elle vapote, je ne sais plus comment on dit. Et on se souvient des images d'elle à l'Assemblée nationale, vapotant discrètement sous son masque. Alors, combien ça va coûter, ce paquet de cigarettes? Aujourd'hui, c'est 10,15 € en moyenne. Demain, c'est-à-dire au 1er janvier 2023, ce sera 10,65 €. Et courant 2024, 11 euros le paquet. Pour quels produits? Les paquets, mais aussi le tabac à rouler, habituellement moins taxé. On en débat avec vous tous. Est-ce que vous estimez qu'au fond, c'est peut-être l'occasion d'arrêter? Ou alors, est-ce que vous vous débrouillez autrement? Est-ce que vous allez acheter finalement votre tabac sur les circuits parallèles? Il y a Sébastien qui nous a appelé au 3216. Bonjour Sébastien.
Bonjour Abeline, bonjour à tous.
Ben Sébastien, en plus vous êtes lyonnais et on a quand même l'impression qu'à Lyon, il y a un peu un marché du tabac à ciel ouvert à la Duchère. Est-ce que c'est là notamment que vous allez vous fournir? Vous êtes fumeur, Sébastien?
Oh oui. Non, nous, on est deux gros fumeurs à un paquet par jour.
Ouais.
Donc moi et ma femme, ça fait déjà 5-6 ans que je suis passé donc au tube, c'est-à-dire le tabac à tuber, donc que je fais mes clopes moi-même, etc.
Ouais.
Mais ça doit faire bien 3-4 ans que je n'ai pas mis un pied au tabac.
Ah, donc en fait, vous êtes fumeur. Attendez, je récapitule. Vous êtes fumeur, vous fumez deux paquets par jour à vous deux. C'est-à-dire, le foyer fume deux paquets par jour. Et ça fait des années que vous n'avez pas été au tabac. Vous l'achetez où alors?
Ah, bah, on en trouve partout. Parce que, alors, on entend beaucoup parler de la Guillotière en ce moment, etc. Mais tout n'est pas concentré à la Guillotière. Il suffit, en deux coups de fil, vous avez votre tabac qui arrive devant la porte.
C'est quoi? C'est le Uber du tabac, quoi?
Ah ben ça, oui, ça se trouve partout, ça arrive de l'étranger et on paye, et même il y a sûrement des intermédiaires entre temps, etc. Mmh. Et j'arrive quand même à payer mon tabac 40% moins cher qu'en France.
40% moins cher qu'en France que si vous l'achetiez au tabac.
Bah en France, je vais pour faire simple, c'est 50 euros les 100 grammes à quelque chose près de tabac. Moi je paye 40 euros les 170 grammes.
Ah bah oui, donc finalement le coût y est.
Moi, tant que les étrangers n'augmentent pas, ça ne changera rien à vie.
Pour vous, c'est du tabac étranger qui vous est livré. En fait, il y a juste des passeurs, en quelque sorte, qui vont acheter le tabac à l'étranger, qui vous le revendent, qui font une petite marge, et puis vous y retrouvez, quoi.
Exactement.
Bah, c'est pas du tabac. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tabac. C'est-à-dire, c'est une forme de contrebande, mais Sébastien, vous n'achetez pas du tabac qui serait du faux tabac ou qui serait du tabac coupé. Vous achetez du tabac.
Ah non, parce que pour être
qualité égale.
C'est pas la même qualité. Mais là, voilà, c'est le Luxembourg, c'est Andorre, c'est l'Italie.
Et jamais vous vous êtes dit. Et Sébastien, jamais vous vous êtes dit, bah au fond, même moins cher qu'au tabac du coin, ça nous coûte quand même très cher. Et puis bon, bah malgré tout, ça nous empoisonne un peu. Vous vous êtes jamais dit on arrête?
Si, j'aimerais bien. Mm. Si, j'aimerais bien. Mais concrètement, il faut une réelle envie pour pouvoir arrêter de fumer. Il faut avoir un certain déclic. Si c'est pour arrêter aujourd'hui et reprendre dans 3 semaines et fumer le double.
Mais c'est pas le prix. En tout cas, c'est pas le prix. C'est pas la hausse du prix qui joue comme un déclic pour vous, Sébastien. En aucun cas.
Ah non.
Vous contournez, vous vous débrouillez, vous faites autrement, quoi.
Oui, parce qu'on dit qu'il y a 22% de volume en moins, mais concrètement, les gens, ils sont juste passés sur le circuit parallèle, ils n'ont pas arrêté.
Oui, c'est pas 22% moins de fumeurs. C'est juste des gens qui, pour une grande part, comme vous, Sébastien, comptent pas dans les chiffres, parce qu'en effet, vous faites pas partie de ceux qui achètent au tabac, mais qui, pour autant, on le voit bien, fument. Sébastien, restez avec nous. Il y a Mathieu qui nous a appelé, lui, du Morbihan. Bonjour, Mathieu.
Bonjour, Pauline. Bonjour, tout le monde.
Mathieu, je dis d'ailleurs que vous êtes dans le Morbihan, mais vous êtes peut-être sur la route déjà.
C'est ça. Oui, je suis routier. Bah, je suis pas loin de Sébastien. Je suis du côté de Mâcon. Donc
Pouvez vous retrouver après hors antenne si vous voulez.
Je retourne en Bretagne.
le fumeur est l'ancien fumeur, si je comprends bien, Mathieu. C'est ça.
C'est ça. Voilà. Moi, j'ai arrêté il y a 7 ans. Pour trois raisons. Parce que j'allais être papa, donc je voulais pas pourrir la vie de mon fils, je voulais pas lui montrer le mauvais exemple.
Ouais.
Pour ma santé, parce que je faisais énormément de bronchite asthmatiforme et du coup, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était dû au tabac, parce que maintenant, les bronchites, ça va bien.
Ouais.
Et déjà, il y a 7 ans, c'était déjà pour le porte-monnaie.
D'accord. Ça, c'était la troisième raison.
Voilà, c'était un global, quoi. C'est vrai
oui,
que,
oui,
voilà,
c'est ça.
Voilà.
Vous avez fait des sacrées économies.
Ouais, voilà, j'ai fait de sacrées économies il y a 7 ans déjà. Et quand je vois maintenant le prix du tabac, je le dis à ma femme, je fais, mais je pourrais même pas recommencer à fumer tellement ça coûte cher.
Ouais.
Parce que voilà, je trouve ça exorbitant le prix et donc ça me dissuade de reprendre, mais même si j'ai pas l'envie. Et des fois, c'est vrai que bon, je parle avec des amis, des fois, des trucs comme ça, et puis des fois, j'ai un collègue, la dernière fois, il me fait des fois, à la fin du mois, c'est compliqué, puis il me sort ça avec la clope au bec. Bah, je lui dis, regarde dans ta bouche, là, t'as 300 euros d'économie par mois à faire, quoi. Des fois, c'est les gens vont sacrifier des on va dire des produits essentiels de la vie courante pour continuer à fumer ou des fois ils vont se mettre dans le rouge.
Mais vous croyez pas si bien dire, Mathieu, parce que Charles ce matin a eu des témoignages. Hein, Charles, je me tourne vers vous.
On a eu Aïcha avant 5h qui nous a appelé pour nous dire, moi je suis une grosse fumeuse, j'arrive pas à arrêter, et du coup avec cette hausse, alors qui est pas énorme, là on parle de 30 centimes, 50 centimes, elle dit je vais rogner sur mon budget alimentation pour pouvoir continuer à fumer parce que j'ai du mal à ralentir ma consommation de cigarettes.
Mais c'est bien ça d'ailleurs qui est un peu hypocrite, parce qu'on voit qu'il y a encore des arbitrages possibles. Dans les pays où on a voulu vraiment mettre fin à la consommation de tabac, les augmentations elles étaient beaucoup plus fortes. Il y a 7 ans, l'augmentation dont on parlait, elle était beaucoup plus forte. Et là, pourquoi on est dans l'hypocrisie ? Parce qu'en fait, cette petite hausse, elle arrange bien tout le monde. Elle arrange, en fait, l'État, qui va encaisser des recettes fiscales supplémentaires. Elle n'est pas très défavorable au buraliste, puisque c'est pas une hausse dissuasive.
On voit bien, depuis ce matin, c'est en aucun cas une hausse dissuasive.
Dissuasive, et ça fait aussi les affaires des cigartiers. Donc, si vous voulez, ce petit trio cigartier, buraliste, État, finalement, continue à faire son business sur le dos des fumeurs sans vraiment avoir une vraie politique qui les dissuade. Parce que si vous aviez le paquet qui augmentait de 5 euros, comme ça a été le cas...
Il
y a des pays où ça a été comme ça, et on pense à l'Australie qui n'a pas de frontières en plus. Hein. Ouais. Enfin, très compliqué d'aller s'approvisionner ailleurs quand vous êtes australien.
Comme le dit Sébastien, aller chercher votre
tabac. Et là, ça a eu des impacts considérables sur, et notamment, ce qui est vraiment l'enjeu, c'est les jeunes, dissuader les jeunes de se mettre à fumer.
Ça a vraiment dissuadé les jeunes de fumer. Ouais. Donc là, cette hausse un peu sournoise et pas franche du collier, en effet, c'est pas de nature. En tout cas, on le voit bien depuis ce matin, avec vous, Charles. Et ici, au 32-16, que ça ne vous a pas créé le déclic pour arrêter. Mathieu, Sébastien, merci de vos témoignages à tous les deux. Mathieu, on en déduit que votre fils doit avoir aux alentours de 7 ans, puisqu'il a l'âge de votre arrêt de la clope. Hein. C'est ça, Mathieu?
C'est ça, oui, il a 7 ans. Et j'ai une fille en plus derrière, et les deux ne me voient pas fumer. Et ça leur donne pas envie.
Et on sent qu'il y a une vraie fierté du papa aussi. Donc félicitations à vous. On poursuit tous ensemble. Vous nous appelez au 32-16 ce débat, cette hausse du prix du paquet de clopes qui va donc passer aux alentours de 11 euros en 2024. Mais d'ici là, il passera par les 10,65 €. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que ça crée le déclic ? Est-ce que vous comprenez aussi qu'on augmente ces taxes ? Le 32-16, vous êtes ouvert.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, le portrait du jour, Nicolas.
Et c'est Evgeny Prigogine, c'est un très proche de Vladimir Poutine. Il vient de reconnaître qu'il était bien le chef de la fameuse milice Wagner.
Et Charles ?
Dans mes histoires, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas être de mauvaise humeur. Il ne faut pas bouder, c'est mauvais pour la santé.
Ah bah c'est une très bonne raison pour ne pas bouder. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Bienvenue sur RMC, il est bientôt 7h, je vous donne le programme de la suite de la matinale. D'abord on va rire, Arnaud Demange, il sera avec nous à 7h20 et à 8h20. Et puis 7h10, 10 millions de Français sont locataires de HLM et souvent ce sont des passoires thermiques. Emmanuel Cosse, qui est présidente de l'Union Sociale de l'Habitat, vient lancer l'alerte sur RMC. Le bouclier tarifaire doit mieux couvrir les logements sociaux. 7h40, le coup de gueule d'un ténor du barreau après la démission de Julien Bayou. Maître Hervé Temim sera dans ce studio, il dénonce une forme de tribunal médiatique, une justice qui n'est pas la justice. 6h52, on poursuit cette matinale tous ensemble.
RMC, Apolline Matin.
Le portrait du jour.
Le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est celui d'un proche de Vladimir Poutine qui a reconnu hier être à la tête de cette fameuse milice Wagner.
Oui, il s'appelle Evgeny Prigojine. On savait depuis longtemps qu'il est le véritable patron de cette armée secrète qui est présente partout où la Russie a des intérêts à défendre. Des soldats Wagner sont intervenus en Syrie aux côtés de Bachar al-Assad, en République centrafricaine, au Mali et bien sûr aussi en Ukraine aux côtés des séparatistes du Donbass. On savait donc que ces mercenaires étaient dirigés d'une main de fer par ce proche de Poutine, Evgeny Prigojine, celui qu'on appelle le cuistot de Poutine, parce que dans les années 90, il tenait un restaurant de luxe à Saint-Pétersbourg où Poutine venait tous les jours déjeuner. À l'époque, Prigojine sortait de prison, il avait purgé 10 ans pour escroquerie et proxénétisme. Depuis, il a fait fortune dans la restauration. Il est aussi à la tête d'une usine à Troll, une entreprise de propagande et de désinformation sur Internet, qui a par exemple tenté de peser sur les élections américaines en faveur de Donald Trump. Mais son métier principal, c'est donc chef de milice, chef d'une des plus grandes armées privées du monde.
Et tout cela, on le savait, mais lui, jusqu'à présent, ne le reconnaissait pas.
Absolument pas. Il faisait même des procès à tous les médias russes en particulier, qui osaient évoquer ses liens avec Wagner. Mais donc, il vient de sortir de l'ombre et d'assumer tout haut ce que l'on savait. Il y a une dizaine de jours, il a d'abord accepté de se laisser filmer en train d'haranguer des prisonniers dans une colonie pénitentiaire. Sur les images qui ont volontairement été rendus publics, on le voit haranguer donc cette foule, offrant aux condamnés la liberté en échange d'un engagement de 6 mois pour faire la guerre en Ukraine. Tous les hommes âgés de 22 ans à 50 ans sont acceptés, à condition d'être en forme. Il précisait même à ses prisonniers qu'il acceptait aussi les violeurs, parce qu'a-t-il dit, tout le monde peut faire des erreurs, mais il a prévenu, attention, les déserteurs seront fusillés. Après cette première vidéo, Evgeny Prigojine a donc publié hier un communiqué pour confirmer qu'il est bien le fondateur de Wagner, un groupe qui, dit-il, regroupe des gars qui sont des héros, des piliers de notre patrie. Difficile de comprendre pourquoi le mercenaire décide soudain de se mettre dans la lumière. Peut-être pour effrayer les Ukrainiens et leurs alliés en leur disant « Sachez que les milices arrivent avec des assassins, des violeurs, des drogués, des tolards sans foi ni loi ».
Donc ce personnage, vous nous aviez parlé, effectivement, ça donnait froid dans le dos de cette fameuse milice Wagner. Heureusement, il y a Charles pour remettre un peu d'ambiance, 6h55.
Les histoires de Charles.
Parce que c'était glaçant, mais là, vous nous dites qu'il faut être de bonne humeur, c'est ça, Charles ?
Exactement. Si vous avez tendance à être un peu trop bougon, si vous pestez tous les matins contre la pluie, les bouchons ou le dernier rapport de la Cour des comptes, eh bien attention, vous avez plus de risques de tomber malade. Compilation d'études publiées dans une revue américaine, les chercheurs ont montré que la mauvaise humeur, le bad mood, comme ils disent, va entraîner du stress, une forme de léthargie et des conséquences au niveau hormonal. Conclusion, je les cite, une exposition prolongée à ces émotions négatives influence le bon fonctionnement de votre système immunitaire. Pour le dire plus simplement, ceux qui boudent seront les premiers à attraper une angine cet hiver. Les chercheurs vous invitent donc à positiver, et là toutes les études le montrent, rire 10 minutes par jour est excellent pour votre santé. Rendez-vous donc dans moins d'une demi-heure avec Arnaud Demange pour le début de votre
cure
quotidienne.
J'ai envie de vous dire, on savait déjà que c'était chouette de regarder ou d'écouter Apolline Matin, mais désormais on sait que c'est en plus très très bon pour la santé.
Recommandé.
Donc, vraiment, c'est à volonté et sans aucune restriction. Un mot du record culinaire du week-end, Charles.
Oui, parce que ce sont nos confrères de BFM, plus précisément de BFM Lyon, qui ont couvert l'événement.
Regardez ces images, c'est le plus grand burrito de France. Il a été réalisé ce samedi et évidemment, il est lyonnais, 25 mètres de longueur, 250 tortillas, 40 kilos de filet de poulet, 60 kilos de sauce.
Et bon petit-déj à tous, c'est un resto mexicain du quartier de la Croix-Rousse qui a organisé ce record. Bon, c'est un coup de com', il l'avait déjà fait l'an dernier avec un burrito de 20 mètres. Record battu cette année, 35 mètres de long pour le plus grand burrito de France.
Mais ça ne s'arrête jamais ces records, quoi.
C'est-à-dire mais oui, il y en a un par week-end.
Tout le tour de la Terre avec des nems.
Enfin, oui. Pourquoi pas. Le défi est lancé.
Pourquoi pas.
Il est 6h56, reste avec nous dans un instant, c'est la météo et le journal. À la une du journal de 7h, vous entendrez la colère des médecins après l'annonce du budget.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.